Vous êtes sur RTL.
Quelques vérités.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Philippe Bruno.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le président, je le rappelle, du Cercle des Fiscalistes et vous publiez Les Intox Fiscales pour en finir avec les idées reçues aux éditions Francis Lefebvre. Une façon originale de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Première question, la suppression de l'ISF est-elle un cadeau fait aux riches? Ça fait partie des choses que l'on assène à longueur de temps.
Oui, aux riches, aux très riches, voire aux ultra riches. La réalité est tout autre. Les vrais gagnants, quels sont-ils? Si on regarde la liste des plus grandes fortunes françaises, on se rend compte que ce sont tous des chefs d'entreprise. Mmh. Ils ne payaient déjà pas d'ISF sur leur outil professionnel, donc pour eux, ça change pas grand-chose. Ensuite, on a les collectionneurs d'œuvres d'art, elles étaient déjà exonérées. Les propriétaires fonciers de bois et forêts, ils étaient déjà exonérés à hauteur de 75%. Les propriétaires immobiliers, pour eux, ça change rien. Ils payaient l'ISF avant, ils payent aujourd'hui le remplaçant de l'ISF qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière.
Et qui est à peu près équivalent?
Qui est à peu près équivalent, qui est même un peu plus dur en ce qui concerne le patrimoine immobilier. Mais je rentrerai pas dans les détails. Mais on peut dire qu'il est à peu près équivalent. Alors, quels sont les véritables gagnants? En fait, les véritables gagnants, ce sont ceux qui sont à la tête d'un patrimoine financier et qui ont pas trop d'immobilier à côté. C'est-à-dire essentiellement des gens qui ont des portefeuilles titres, des PEA ou des contrats d'assurance vie. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous savez, vous avez entre les gens qui payaient l'ISF et les contribuables qui vont payer l'IFI, il y en a 240 000 de moins. S'il y avait 240 000 très riches ou ultra riches en France, je pense que ça se saurait.
Ça se saurait. Alors, une affirmation qui est souvent entendue, l'optimisation fiscale est illégale.
Alors, effectivement, souvent, on entend dire ici ou là que l'optimisation fiscale, l'exil fiscal, la fraude fiscale, c'est la même chose.
Mais quand vous entendez, par exemple, les responsables d'Oxfam, ils vous expliquent en gros que les gens qui profitent de l'optimisation fiscale, en gros, ce sont des fraudeurs. Alors,
C'est pas la même chose.
Bah oui.
Alors, un fraudeur, c'est un tricheur. Et un fraudeur, il doit être puni comme étant un tricheur, et la loi est extrêmement sévère, surtout depuis une dizaine d'années, sur ce sujet.
Quand ils sont pris, ça tape fort.
Ça tape fort, et de plus en plus, on utilise maintenant la voie du pénal. Donc, c'est pas uniquement des redressements fiscaux, c'est du pénal. Et donc, ça tape très fort depuis une dizaine d'années en France, et même, je dirais maintenant, dans la plupart des pays de l'OCDE.
L'optimisation.
À côté de ça, il y a l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, ça se subdivise en deux. Vous avez d'abord l'utilisation de niches fiscales, qui sont au nombre de à peu près 500. Elles sont dans le Code général des impôts. Ouais. Elles sont votées chaque année par le législateur. Donc si on veut supprimer les niches fiscales, on pourrait y revenir. Il suffit juste de changer la loi. D'accord. Il suffit juste que le législateur
ait
un minimum de courage politique.
Absolument.
Voilà. Et donc supprime. Mais c'est tout à fait légal. Genre, c'est tout à fait légal, c'est voté, c'est dans la loi. Et puis, vous avez à côté l'optimisation, les mécanismes d'optimisation fiscale, où là, on est un peu plus borderline, c'est-à-dire qu'on va voir un conseiller fiscal qui met à la disposition du contribuable son savoir-faire. Et parfois, effectivement, il peut abuser de ce savoir-faire, mais la loi l'encadre. Il y a ce qu'on appelle l'abus de droit fiscal qui encadre ces mécanismes.
Est-ce qu'on pourrait dire que dans ce cas-là, ces avocats profitent, on va dire, de la complexité fiscale française, en quelques mots?
Yves Calvi, je crois que le problème n'est pas véritablement la complexité, mais plutôt l'illisibilité. Yves Calvi, votre smartphone, il est complexe.
Oui.
Si vous le démontez, vous êtes incapable de le remonter.
Oui.
Pourtant, vous l'utilisez tous les jours, il est user-friendly, comme disent les Anglais, d'accord?
Oui.
Le problème de la fiscalité, elle est exactement comme notre société, elle est complexe. Le problème, c'est qu'elle devient illisible aux yeux des contribuables et des citoyens.
Autre idée reçue souvent proférée et répétée par de nombreux responsables politiques d'ailleurs, on pourrait effacer le déficit public français en intensifiant la lutte contre les fraudeurs fiscaux. Qu'avez-vous à répondre à cela?
Alors, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que je tombe de ma chaise à chaque fois que je vois les chiffres qui sont annoncés sur le montant de la fraude fiscale. Le Conseil des prélèvements obligatoires les estime en France à entre 20 et 40 milliards d'euros.
En fait, on n'en sait rien.
Bon, on n'en sait rien. C'est très difficile. On le fait par extrapolation. Alors, certaines ONG montent jusqu'à 80, et puis j'ai vu sur une chaîne concurrente récemment que l'on montait entre 100 et 200 milliards d'euros par an. Tout ça est complètement dingue.
Pardonnez-moi, pourquoi on ne sait pas?
On ne sait pas parce que c'est très difficile déjà par définition, d'évaluer toutes les personnes qui fraudent. D'autre part, on le fait par extrapolation, et donc en fait, on regarde tous les fraudeurs, et puis on multiplie par le nombre d'entreprises qui fraudent, et on multiplie par le nombre des règles de trois améliorées.
C'est au doigt mouillé.
C'est extrêmement compliqué à savoir, et surtout, il faudrait pas que l'arbre cache la forêt, c'est-à-dire que les quelques très gros fraudeurs qui fraudent quelques millions d'euros cachent la forêt des petits fraudeurs qui fraudent des centaines de milliers d'euros.
C'est ma dernière question. L'évoquez dans le livre, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, oui. La multiplicité des niches fiscales. Oui. Est-ce qu'on peut les supprimer? Et elles ont-elles été parfois utiles? Ou ont-elles eu une raison d'être?
Oui, certaines d'entre elles, bien sûr. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je n'admets pas en tant que contribuable de ce pays, c'est lorsque Gérald Darmanin, au mois de février 2009, dit qu'il faut supprimer certaines niches fiscales qui n'ont aucun intérêt et que ça permettra de faire baisser l'impôt des plus modestes. Vous avez le ministre de l'économie qui tout de suite monte au créneau en disant « on ne peut pas supprimer les niches fiscales ». Écoutez, il y en a 500, ça coûte 100 milliards d'euros à vous et à moi, c'est-à-dire au budget de l'État, chaque année, ça mériterait juste que l'on se pose la question. D'autant que l'Inspection Générale des Finances, dans un rapport en 2011, a dit que 53% d'entre elles étaient d'une totale inefficacité.
Donc l'équivalent au minimum de 50 milliards à récupérer. Merci beaucoup Philippe Bruno. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle des Fiscalistes et que vous publiez donc aujourd'hui Les Intox Fiscales pour en finir avec les idées reçues aux éditions Francis Lefebvre. Bonne journée à vous.
Merci Philippe.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.